cadre de la démarche participative Tous Paysans en Brionnais, une journée de réflexion autour de l'agriculture et de l'alimentation dans le Brionnais a été organisée le 23 mai dernier. Trois tables rondes se sont déroulées autour du sujet du bocage brionnais à la production d'une alimentation de qualité sur le territoire. Ont été notamment abordées les potentialités et solutions durables, diversification, installation, circuit court, mais aussi labels. Dans une deuxième table ronde, justement le sujet abordé était les signes de qualité, les labels, quels enjeux pour les producteurs et les consommateurs. Dans la première partie de cette table ronde, on a pu entendre les interventions de Dominique Fayard, chargé de mission au pays charolais brionnais, et Stéphanie Duché de l'Institut national de l'origine et de la qualité. Écoutons maintenant les interventions de Stéphanie Limbach de l'instance régionale d'éducation et de promotion de la santé, Marine Philippe qui est animatrice, conseillère élevage biologique à l'association Bio-Bourgogne, et le témoignage de Henri Baladier, agriculteur retraité.
Là, on va prendre l'entrée santé avec vous par rapport à ces signes de reconnaissance ou de qualité des différentes productions.
Alors, je vais peut-être préciser en préambule quelles sont les missions sur lesquelles nous travaillons en tant qu'IREPS. Donc l'IREPS, je vous ai dit, c'est l'instance régionale d'éducation et de promotion de la santé. Donc nous sommes une association qui œuvrons dans le domaine de l'éducation pour la santé et promotion de la santé, je vous l'ai dit, à travers différentes missions. Pour faire éthique, on accompagne d'un point de vue méthodologique tous les partenaires, tous les acteurs de terrain dans la mise en œuvre de projets en santé, en promotion de la santé. Donc voilà, ça peut être un appui ponctuel ou tout au long de la démarche. Nous développons également des projets territoriaux de prévention, d'éducation et de promotion de la santé. Donc l'IREPS développe un certain nombre de projets thématiques et ou populationnels. Et la nutrition fait partie des priorités qui sont développées à travers les projets. Et puis nous contribuons à la mise en œuvre des politiques régionales de santé publique en participant à ce qu'on appelle à la démocratie en santé. Donc voilà, on est également présent au sein des commissions au niveau régional pour faire part de nos remarques, de nos commentaires, des axes de travail qui pourraient être développés en lien avec les partenariats sur les différents territoires. Alors voilà, donc cette partie pour faire le lien avec produits d'origine, donc produits de qualité, produits quel impact sur la santé. Essayons déjà de définir qu'est-ce qu'un produit sain, qu'est-ce qu'on entend par produit sain, et quels impacts possibles sur la santé du consommateur. Pardon. Alors, il peut y avoir plusieurs portes d'entrée pour définir qu'est-ce qu'un produit sain. Déjà, d'un point de vue nutritionnel, est considéré comme sain tout aliment qui est favorable à la santé et qui apporte à l'organisme les différents nutriments dont il a besoin pour fonctionner. Donc, c'est-à-dire qui puisse apporter l'ensemble des vitamines, des oligo-éléments, les antioxydants, les fibres et l'ensemble des nutriments qui puissent le faire fonctionner. Donc ces éléments nutritifs sont facilement assimilables par l'organisme humain lorsque ceux-ci proviennent d'aliments biologiques, autrement dit d'aliments qui sont commercialisés dans leur état naturel. Voilà, il faut rappeler que de nos jours, le marché propose un certain nombre d'aliments issus de l'industrie agroalimentaire qui sont transformés et auxquels on rajoute un certain nombre de colorants et de composés chimiques qui sont utilisés pour compléter nutritionnellement les produits et ou avoir une meilleure conservation des produits. Alors, il est bon de rappeler également qu'en termes d'alimentation et d'équilibre alimentaire, il n'existe pas d'aliments 100% bons, entre guillemets, et 100% ou 100% mauvais. Voilà, dans l'équilibre en matière d'alimentation, en fait, tout est notion, question de quantité consommée et de variété des aliments que consomme le consommateur. Donc, aucun aliment, il faut savoir, ne couvre à lui seul les besoins de l'organisme en termes de santé purement biologique. Alors le terme saint, ça a été évoqué aussi par les autres intervenants, où elle a fait référence aussi aux produits qui répondent à certaines exigences de qualité, mais aussi exigences de sécurité sanitaire, et également fait référence voilà aux produits qui sont portent un aspect qui s'intéresse justement à être produit avec des modes de consommation qui sont non polluants et respectueux pour l'environnement en général et pour les ressources naturelles. Alors, les produits sains, dits sains, tout à l'heure, Monsieur Brunet parlait d'alimentation sûre, donc plus en termes d'exigence de sécurité sanitaire, ont souvent une meilleure qualité nutritionnelle, donc effectivement dans la composition des produits, avec des produits qui sont plus riches en vitamines, plus riches en sels, plus riches en minéraux. Alors, pourquoi ? Parce que effectivement, quand vous prenez les fruits et légumes, quand vous êtes sur des produits de qualité, ils ont temps d'aller d'être maturés, d'avoir une maturation la plus complète, donc effectivement d'être le plus riche en termes de composition nutritionnelle. Et puis les produits sains sont souvent voilà synonymes quand même de fraîcheur, de qualité, avec cette maturation optimale voilà qui est obtenue avec des conditions naturelles et des conditions adaptées en termes de culture ou de production. Et puis, de manière générale, un impact plutôt positif sur la santé, puisque ces produits contiennent moins de colorants, moins de pesticides, moins de produits chimiques qui, on le sait, il y a eu un certain nombre d'études voilà, qui montrent effectivement les effets néfastes de ces colorants, de ces produits chimiques sur la santé. Donc effectivement, consommer ce type de produits sains, à la fois voilà moins riche en composés chimiques et plus riche naturellement en termes de qualité nutritionnelle, c'est plutôt quelque chose, voilà, le lien santé est bien présent. Aujourd'hui, la question d'alimentation est une, et de manière générale de nutrition, c'est une question qui est vraiment présente dans les politiques de santé publique de manière générale. Depuis quelques années, voilà, il y a un certain nombre de plans nationaux qui sont mis en œuvre, que ce soit le programme national nutrition santé, le programme national alimentation dans le cadre voilà PNA avec la DRAF, qui prône voilà les, une alimentation saine, une alimentation diversifiée, une alimentation équilibrée. Voilà, on sait qu'effectivement, bah, le lien n'est plus à faire entre l'alimentation et la santé de la population de manière générale. Donc l'objectif, c'est bien effectivement par la valorisation, la promotion des produits qui sont riches d'un point de vue nutritionnel, qui sont respectueux de l'environnement, d'améliorer voilà l'état de santé de la population. Donc le choix des aliments que nous produisons et consommons, le lieu d'où ils proviennent, les pratiques de production, de transformation et de distribution utilisées influencent de manière considérable l'état de notre planète, aussi l'état de notre santé et la qualité des liens sociaux qui nous unissent. Alors, quelles sont les exigences du consommateur au niveau national ? Alors, effectivement, depuis de nombreuses années, il y a un fort développement du commerce national, international, qui fait que le consommateur a une grande diversité de choix dans les produits. Effectivement, quand vous, voilà, vous allez dans les supermarchés, quand vous allez fréquenter les différentes boutiques, vous avez toute une panoplie de produits avec des qualités différentes. Donc, le consommateur est face à une grande diversité de produits et il a besoin de pouvoir s'y retrouver et de pouvoir avoir toutes les informations clés pour pouvoir faire des choix avérés sur les produits qu'il va consommer. Donc effectivement, le besoin des consommateurs d'avoir des informations sur la qualité nutritionnelle des produits, sur effectivement, si je me tourne vers tel ou tel produit, quel gage de qualité j'ai derrière en termes de composition nutritionnelle, en termes d'engagement sur les modes de production, le respect de l'environnement de manière générale. Donc voilà, c'est une attente bien particulière des consommateurs. Et pour faire face à ce besoin en termes de, d'avoir de l'information sur la qualité des produits, il y a une réglementation qui a été mise en place, qui est le règlement INCO, donc l'information du consommateur sur les denrées alimentaires, qui va renforcer par exemple les nouvelles règles en matière d'étiquetage, donc notamment sur l'étiquetage nutritionnel des produits pré-emballés. Donc ça, c'est vraiment un outil qui permet de répondre à ce besoin d'avoir un certain nombre de connaissances sur les produits que peuvent consommer les consommateurs. Donc l'indication, effectivement, besoin aussi de retrouver l'origine des produits, que ce soit les produits transformés ou les produits bruts. Donc cette réglementation qui est notamment la déclaration nutritionnelle obligatoire, qui est maintenant obligatoire pour les produits emballés, pré-emballés depuis fin décembre 2016, pardon. Donc ça, voilà, c'est un grand chamboulement aussi pour les producteurs, les agriculteurs, parce que quand on fait des produits transformés, pré-emballés, ça demande aussi de s'adapter à cette réglementation, justement pour donner l'information précise aux consommateurs de manière générale. Donc ça demande voilà la nécessité de réfléchir aussi au mode de communication et de valorisation des produits de manière générale. Alors il y a un certain nombre d'accompagnements qui peuvent être proposés. Tout à l'heure on le disait, Monsieur Brunet parlait d'éducation alimentaire. Je pense qu'effectivement c'est nécessaire. Voilà, dès le plus jeune âge, on peut dans les écoles, dans les différentes structures renforcer voilà les actions d'information, de sensibilisation sur ces questions d'alimentation de qualité et du lien entre alimentation et santé. Donc faire en sorte voilà d'être de sensibiliser les futurs consommateurs, d'en faire des acteurs finalement, d'être citoyen et d'être engagé dans une démarche alimentation et santé. Voilà, donc poursuivre ces tant d'actions d'information, que ce soit auprès des enfants, mais auprès de la population générale, qui a du mal à se retrouver dans les informations qui sont véhiculées à travers les différents médias, où il n'est pas toujours simple de retrouver la bonne information. C'est vrai qu'il y a tout un panel d'informations, de sources qui ne sont pas toujours avérées sur les questions d'alimentation et de santé. Et puis, voilà, sur les questions de santé, en lien avec le territoire, je pense qu'il est essentiel, comme ça a été dit sur la première table ronde, de rapprocher les consommateurs et les producteurs pour avoir aussi une meilleure connaissance mutuelle des attentes et des besoins de chacun, puisqu'effectivement, le consommateur a des préoccupations en termes de qualité à des produits, mais il faut aussi en avoir connaissance et de pouvoir adapter et de répondre mieux à cette demande. Donc voilà, travailler sur ce rapprochement producteur-consommateur, de travailler sur la communication, la valorisation des producteurs, de manière générale, des produits, et puis rendre accessible, faciliter, travailler sur l'accès des consommateurs à ces produits de qualité sur les territoires et notamment sur les territoires ruraux. Donc je pense qu'effectivement la santé a toute sa place voilà, sur les démarches qui peuvent être déployées dans le cadre des projets territoriaux de santé de manière générale. Et que la santé voilà, peut être vue à travers le prisme des enjeux économiques, sociaux et ou environnementaux, voilà, enjeux qui sont essentiels sur ces démarches.
Pour juste compléter et puis illustrer, est-ce que vous pouvez parler de tel ou tel territoire dans lequel il y a déjà une concertation au titre de la qualité santé des produits entre les professionnels producteurs, les consommateurs, puis peut-être les professionnels santé aussi?
Alors après d'exemples précis, après c'est plus d'exemple, je travaille sur le pays, donc le pays Charolais-Brionnais. On essaye de travailler justement sur ces questions d'alimentation le lien avec la santé et de travailler avec avec les cantines scolaires. Bon, tout à l'heure, on parlait de l'importance aussi de travailler sur la restauration collective de manière générale. Voilà, au niveau de la restauration collective, il y a un certain nombre d'obligations qui s'opposaient sur l'offre alimentaire et sur l'équilibre alimentaire de manière générale. On essaie voilà, d'être à la rencontre des professionnels, des associations aussi de parents qui gèrent voilà, sur le secteur du pays Charolais-Brionnais, il y a énormément de cantines qui sont gérées par des structures associatives qui n'ont pas forcément toutes les informations en main ou ne savent pas forcément comment s'y prendre pour répondre à ces obligations. On essaye de au-delà du travail sur la qualité nutritionnelle, sur le respect en termes de fréquence de telle ou telle famille allemande, de travailler en lien avec différentes structures locales, différentes associations, je pense à Terroir de Saône-et-Loire. On essaye de faire le lien justement aussi d'apporter cette réflexion sur l'amélioration des produits qui sont proposés et de faire le lien entre les consommateurs, les associations qui gèrent ces cantines et le réseau des producteurs locaux justement pour répondre à un besoin. Alors c'est pas toujours facile, hein, on s'aperçoit que il y a parfois des volontés, mais les personnes ne savent pas toujours vers qui se tourner, voilà, à quelle porte frapper. Donc voilà, c'est intéressant de pouvoir d'être dans le rapprochement consommateur et puis réseau initiative locale, réseau de producteurs, voilà, pour faire le lien et améliorer l'offre alimentaire de manière générale sur les territoires.
Avec Marine et Philippe, on va se focaliser donc sur ce signe de qualité qui est la reconnaissance comme bio, agrobiologie, et en regardant là aussi les difficultés ou les atouts qui sont inhérents aux différents projets, et avec notamment ce point clé de la conversion en agriculture biologique.
Oui. Du coup, je vais commencer par vous présenter en deux mots l'organisation des structures de développement de la bio sur le territoire. Merci. Du coup, les producteurs bio sont constitués en groupements départementaux qu'on appelle les GAB, les groupements d'agriculture biologique. Donc, dans la Bourgogne, il y en a quatre pour les quatre départements. Et donc, ensuite, ils sont fédérés par l'association Bio-Bourgogne, qui, elle, est donc régionale, qui s'insère ensuite dans un réseau national et même international. Donc Bio-Bourgogne, c'est une association pour le développement de l'agriculture biologique dans la région. Elle a deux grandes missions, qui sont donc de représenter les producteurs biologiques auprès des instances et des pouvoirs publics, et aussi de mettre en œuvre des actions de développement sur le territoire. Donc c'est des actions qui peuvent être de la sensibilisation, de l'accompagnement des producteurs et donc des producteurs en conversion ou déjà en bio, des conseils techniques, un appui aussi à la structuration de la filière et une action sur la promotion de la bio. Donc maintenant sur le groupement des agriculteurs bio de Saône-et-Loire plus spécifiquement, donc il a les mêmes globalement mais les mêmes grandes missions que la structure régionale, mais sur un rayonnement plus territorial, et son but aussi est de défendre et de protéger plus particulièrement les adhérents du groupement. Donc ses grandes missions, c'est de représenter les producteurs bio et de défendre les adhérents, de créer du lien sur le territoire entre les producteurs bio et d'accompagner les différents projets qui peuvent naître, et mettre en œuvre des actions de développement, donc là, en partenariat très étroit avec la structure régionale Bio-Bourgogne. Donc on va continuer sur quelques chiffres de la bio dans la région, tout d'abord. Donc on compte 1140 exploitations bio sur la Bourgogne, donc c'est 6% des exploitations de la région. Et en 2016, on compte 128 nouvelles fermes. Donc les deux dernières années, 2015-2016, ont été des grosses années de développement de l'agriculture bio sur la région. Sur ces deux années, entre 2014 et 2016, on compte 25% d'augmentation en nombre d'exploitations. Au niveau maintenant des surfaces, on compte un peu moins de 70 000 hectares sur la région, et 11 000 hectares supplémentaires en 2016. Donc là, sur les deux dernières années, 2015 et 2016, il y a une augmentation de 20% des surfaces. Maintenant, je vais faire un petit focus sur le Brionnais. Donc, j'ai compté 21 exploitations bio sur le territoire, qui sont réparties en différentes activités. Donc le petit schéma ici les montre. On compte majoritairement des exploitations en élevage ou en polyculture élevage, donc on en compte 12 en tout. Ensuite, sur du maraîchage, 4 exploitations en maraîchage, 3 qui font des plantes aromatiques et médicinales, 2 en apiculture, et pour finir, en vigne aussi, 2 exploitations viticoles. Donc au niveau de l'élevage, on retrouve du bovin majoritairement à l'étang, mais aussi des bovins laitiers, des caprins et de la volaille. Et sur les dernières années, donc 2015-2016 et le début de 2017, on compte 7 nouvelles conversions ou installations sur le territoire. Donc maintenant, je vais poursuivre sur l'accompagnement justement spécifique de ces conversions ou installations, enfin des porteurs de projets sur la bio. Donc au niveau des difficultés, donc je vais commencer par en lister quelques-unes, peut-être les plus importantes. Les difficultés peuvent être techniques, parce que passer en bio, ça demande un changement de système qui peut être important, ça dépend de l'exploitation initiale, mais selon les cas, ça peut être de gros bouleversements. Ensuite, sur un accès au foncier pour les installations. Donc maintenant, il y a des structures qui cherchent à développer ça, mais c'est toujours parfois difficile. Lorsque la situation financière d'une exploitation est déjà fragile, le passage en bio va pas l'améliorer. C'est quelque chose de risqué, et en particulier quand il y a eu des investissements importants faits sur une ferme. Ensuite, actuellement, il y a une incertitude importante sur le versement des aides bio. Donc ça, pour des producteurs qui réfléchissent, ça peut être un frein pour passer en bio. Ensuite, il y a bien sûr des freins culturels. Donc être agriculteur bio, ça va être difficulté des agriculteurs d'un territoire. Donc ça peut être un frein, particulièrement pour les jeunes qui sont issus du milieu agricole au départ. Et ensuite aussi sur la perception d'un beau travail. C'est pas la même chose, un beau travail en bio et en conventionnel pour un producteur. Et donc pour finir sur ces difficultés, ça s'améliore, mais avant c'était en particulier sur la commercialisation des produits. Aujourd'hui les filières sont développées et même continuent de se développer, donc c'est un frein moins important. Alors bien sûr, il y a des leviers sur lesquels on peut jouer pour développer la bio. Donc c'est tout d'abord accompagner ces porteurs de projets à l'installation ou à la conversion. Donc nous, c'est notre travail à Bio-Bourgogne et dans les GAB. Et puis il y a d'autres organismes des développements qui travaillent là-dessus, comme les chambres d'agriculture par exemple. Donc c'est à la fois un appui technique, mais aussi réglementaire, administratif et sur les projets par exemple de commercialisation, de transformation. Ensuite, bien sûr, c'est de mettre en réseau les agriculteurs qui sont déjà en bio avec ceux qui ont un projet d'installation ou de conversion. Et bien sûr, il faut continuer à travailler sur la recherche pour aider à développer la bio. Donc la bio, on en parlera après, mais c'est une agriculture qui est innovante et il y a toujours besoin de recherche sur, par exemple, la fertilité des sols ou la génétique pour qu'elle soit adaptée à cette agriculture. Alors maintenant, un petit point sur les atouts de la bio pour un territoire rural comme le Brionnais. Alors je vais peut-être rappeler très rapidement du coup que la bio, c'est bien elle est bien inscrite à l'INAO et elle est régie par l'INAO, par l'Union européenne, et donc c'est un signe de qualité. Et donc, son application est contrôlée par des organismes certificateurs qui sont indépendants et à toutes les étapes de production d'un produit bio. Donc, à la fois, par exemple, au niveau de l'élevage, mais ensuite au niveau de la transformation des produits. Donc, deux mots sur le reste du cahier des charges. Donc, pour les cultures bio, c'est une production sans produits chimiques et sans OGM. Qui Donc la fertilité des sols, par exemple, est gérée par le recyclage des matières organiques, par l'utilisation des effluents d'élevage et la rotation des cultures. Et ensuite, c'est une agriculture qui maintient la biodiversité en utilisant la lutte biologique. Ensuite, sur l'élevage bio, donc les animaux doivent avoir un accès au plein air, c'est obligatoire dès que les conditions le permettent. Ce sont des élevages extensifs et il y a un point important sur le respect du bien-être des animaux. Et ensuite, pour la santé, c'est l'utilisation des médecines alternatives et la prévention en premier lieu. Pour les produits transformés, donc l'agriculture bio limite fortement les additifs et les auxiliaires. Donc cette agriculture avec ce cahier des charges dont je viens de parler, ça apporte des réponses à des problématiques à la fois sur la ferme, sur la région et sur la société. Donc sur la ferme, ça favorise l'autonomie du système par des bénéfices entre le sol, les animaux et les cultures. Donc ça permet aux producteurs d'être indépendants du cours des matières premières, par exemple, et d'avoir une plus forte résilience face aux aléas climatiques. Ensuite, ça crée de la valeur ajoutée sur les fermes par donc une production de qualité qui est souvent transformée et ensuite commercialisée en circuit court. Enfin, pas tout le temps, mais une grande partie. Et ensuite, ça assure des conditions de vie satisfaisantes pour les producteurs, puisque c'est une satisfaction il y a des satisfactions personnelles, des motivations personnelles à travailler en agriculture biologique. Pour la société, donc bien sûr, ça génère des impacts environnementaux positifs sur l'eau, le sol et la biodiversité, puisque on n'utilise pas de produits phytosanitaires chimiques, les sols sont couverts, on favorise la lutte biologique. Ensuite, ce sont généralement des fermes plus petites, diversifiées, qui commercialisent en circuit court et qui apportent ainsi de la vitalité et de la diversité sur les territoires. Et pour finir, pour la société, ça favorise aussi les partenariats équitables entre les transformateurs, distributeurs et consommateurs par ces voies de commercialisation et surtout rémunérateurs pour tous les maillons de la filière. Donc pour finir sur la région, c'est une agriculture qui crée de l'emploi puisque on compte 20 à 30% de main-d'œuvre supplémentaire sur une ferme bio que sur une ferme conventionnelle. Ensuite, ce sont des fermes à dimension humaine et diversifiées qui maintiennent la biodiversité. Donc, ceci permet d'améliorer les paysages, en particulier par le maintien de l'élevage et par exemple des haies, des arbres. Et pour finir, donc ça produit des aliments de qualité, puisque donc on n'utilise pas de produits chimiques, mais c'est aussi montré que pour la plupart, les produits bio ont une meilleure qualité nutritionnelle. Donc ça, c'était juste une diapo sur une étude qui a été faite par l'ITAB, donc c'est l'Institut technique de l'agriculture biologique, qui montre les répercussions économiques sur la société, l'environnement, la santé et d'autres choses encore de la bio. Donc c'est accessible sur Internet si ça vous intéresse. Ça a été fait en 2016 à la demande du ministère de l'Agriculture, si je ne me trompe pas. Et donc très rapidement pour finir sur les consommateurs. Oui. Donc 80% des consommateurs, des Français ont confiance dans les produits bio, dans la bio en général. 7 sur 10 en consomment régulièrement, donc tous les mois, et 30% d'entre eux sont prêts à augmenter leur consommation de produits bio. Et donc pourquoi ces personnes consomment bio? Donc 66% d'entre eux le font pour des aspects sur la santé. Ensuite, il y a 58% aussi de motivation sur l'environnement et 56% sur la qualité des produits et leur goût.
Donc, c'est principalement à partir de votre expérience d'agriculteur et d'agriculteur tirant parti du raccordement à des signes de qualité que vous allez intervenir.
On m'a un petit peu fixé un cadre pour mon intervention. que je vais vous détailler.
Y compris un cadre temporel à 10
minutes. Oui, j'ai bien compris, mais quand on ne respecte pas la parité, on sait bien que ces dames sont toujours un peu plus bavardes que nous. Donc, mais je vais essayer d'être précis et concis. Voilà, donc quand et comment vous êtes-vous labellisé, pourquoi, qu'est-ce que cela vous a apporté au fil du temps, quelles contraintes, quels enjeux pour vous, votre ferme, votre territoire, avez-vous transmis votre activité, comment cela s'est-il passé, quelles interactions avec le territoire, quelles préconisations pour l'avenir. Alors je voudrais faire deux petites précisions. Le label rouge n'est effectivement pas un signe territorial, enfin n'est plus, parce qu'à une époque, au départ, la loi d'orientation 1960, je crois, d'Edgar Pisani, les labels rouges pouvaient être régionaux. C'est d'ailleurs comme ça que se sont construits les premiers, notamment dans la volaille. Et puis après, on a interdit aux labels rouges d'avoir une dénomination territoriale. En ce qui me concerne, je me suis engagé dans la démarche en production bovine en 1989. La volonté de finir le maximum, voire la totalité des animaux produits sur l'exploitation et de les valoriser au mieux, a, je pense, été ma motivation première. Pour vous dire, je castrais les mâles pour les vendre en bœuf à contre-courant de ce qui se faisait à l'époque et que ce qui se fait encore, où la plupart des mâles sont vendus en broutard pour être engraissés en Italie de façon intensive. Je dirais que ça m'a apporté une certaine sérénité pour la commercialisation dans un marché beaucoup moins spéculatif. La survenue de l'épisode de vache folle en 1996 m'a conforté dans mes choix, car le label rouge est apparu à l'époque, contrairement un petit peu à ce que disait Dominique Fayard, comme une solution et même... une branche à laquelle tout le monde se raccrochait un petit peu. Pourquoi ? Parce que le cahier des charges à l'époque faisait déjà, par exemple, les farines animales. Voilà. Les contraintes pour respecter le cahier des charges sont relativement facilement accessibles pour un élevage de notre région. C'est la race charolaise, c'est le respect des cycles prairie-étable avec une durée minimum de pâturage, ce que la plupart des gens respectent. Alors, une alimentation provenant en majorité de l'exploitation avec un référencement des formules des aliments qui sont achetés. C'est-à-dire que les aliments qui sont achetés sont regardés un petit peu par l'organisme certificateur qui va voir s'il n'y a pas dedans des produits qui ne seraient pas conformes, et notamment est interdite l'urée dans les aliments. Alors, le veau tête sa mère au moins jusqu'à 5 mois, vous me direz quoi d'extraordinaire. Eh bien, il faut savoir que la moitié de la production de viande française issue de races laitières, eh bien, le veau ne tête jamais sa mère, mais tête des farines, des poudres de lait. Un âge minimal, 28 mois pour les génisses, 30 mois pour les mâles, avec un maximum de 10 ans pour les vaches. Exclusion des taureaux et des mâles non castrés type jeune bovin. Alors, outre la plus-value, environ 70 euros en moyenne par animal, je dirais que la satisfaction d'aller le plus loin possible dans l'élaboration du produit, avec la connaissance de où et comment il est vendu, a sans doute été aussi une motivation. Alors, pour l'économie de l'exploitation, je dirais que la baisse des frais vétérinaires, parce que moins de naissances, moins de vaches mères, parce que plus d'animaux gardés un peu plus âgés, fait qu'on a moins de problèmes, parce que les problèmes vétérinaires, c'est beaucoup avec les jeunes. Mais à contrario, une réduction des primes possibles en vaches allaitantes, puisque les primes PAC sont positionnées sur les mères, ce que j'ai toujours trouvé un peu étonnant, parce que on a de ce fait favorisé une production avec naissance d'animaux, mais pas la finition. Et quelque part, je pense qu'avec le positionnement des primes PAC, on a un peu inciter les gens à vendre le blé en herbe. Alors pour le territoire, je dirais que le fait de finir des animaux et de les valoriser, ça contribue aussi au maintien, ça a été dit tout à l'heure aussi, maintien d'outils d'abattage et de transformation, avec des emplois malgré tout, une réputation. Alors par rapport à la transmission, à ma retraite, la ferme a été louée. C'était un peu compliqué, pas du fait du label rouge, mais de la réglementation générale et notamment des autorisations d'exploiter. Mais bon, on s'en est sorti quand même. Le successeur est aussi habilité pour le label rouge, mais lui, il ne finit que les femelles, les mâles étant vendus en broutard. La cession a été un agrandissement d'une exploitation existante. Pour l'avenir, moi je pense que la seule chance pour le territoire est de se différencier clairement d'une production de masse. Alors ça peut être avec n'importe lequel des signes qui ont été évoqués, qui sont pas contradictoires entre eux à mon sens, mais tous ces signes paraissent des outils essentiels pour se positionner auprès des consommateurs, le label rouge, le bio, l'indication géographique ou l'appellation d'origine protégée, qui sont éventuellement cumulables, comme ça a été dit. On peut très bien avoir du bio et une indication géographique ou appellation d'origine, et qui se complètent et qui peuvent aussi, à mon sens, se compléter de façon harmonieuse, voire s'intégrer dans des circuits courts.
Et pour cette table ronde sur le thème signes de qualité, quels enjeux pour les producteurs et les consommateurs, eh bien, il y aura une troisième partie à découvrir, à écouter, avec notamment les interventions du public.